cours de métaphysique du 12 décembre 1983, Rimont, Père Marie-Dominique Philippe.
Nous étions donc la dernière fois essayé de comprendre la position de saint Thomas sur la personne telle que le théologien peut, à partir de la révélation des trois personnes divines, dans l'unité, essayer de préciser pour éviter les contradictions. Bien comprendre. Ça ne nous donne pas une intelligence nouvelle du mystère de la très sainte Trinité, puisque nous n'en avons pas, et que nous ne pouvons pas en avoir. Nous pouvons contempler le mystère de la très sainte Trinité, mais nous ne pouvons pas saisir ce qu'est la très sainte Trinité. Et le théologien doit essayer d'expliquer comment, dans le mystère de la simplicité absolue de Dieu, on peut préciser la distinction des personnes. Si on précise cette distinction des personnes à partir du mystère de la fécondité, on précise que c'est par l'âme, la relation, purifiée de toute imperfection, une relation, je ne dis pas une relation en soi, vous comprenez, hein, une relation à l'état pur, ce ne serait pas vrai, mais une relation applicable à Dieu. Et je ne peux le dire qu'à partir de la révélation. Je ne pourrais pas dire que je peux nécessairement appliquer la relation à Dieu, puisque de fait, la relation n'implique aucune imperfection et aucune perfection en soi. Donc je ne peux pas le dire sans la révélation. Un Aristote n'aurait pas pu dire que la relation peut être attribuée à Dieu. Il n'a jamais dit du reste. Hein. Il a dit l'acte pur. Il a dit la vie contemplative, c'est-à-dire la contemplation. Noesis, noeseos. La contemplation de la contemplation. Mais il n'a jamais dit que la relation pouvait être attribuée à Dieu. Le philosophe ne peut pas le dire, puisque la relation comme telle n'implique aucune perfection, aucune imperfection. Le caractère extrêmement ténu de la relation. Le pur âme. Si cet âme est attribué à Dieu à cause que la révélation nous dit qu'il y a une fécondité en Dieu, et donc une relation d'une source à son fruit, nous pouvons dire que cette relation en Dieu a ce mode particulier qu'elle subsiste. Nous avons donc un ad subsistant. Et cet ad subsistant constitue, tant que le théologien le peut, le comment de cette relation divine, de la personne divine. Cette personne distincte d'une autre personne. Et ceci sans rompre l'unité et la simplicité, mais en manifestant qu'il y a en Dieu cette richesse que seule la révélation peut dire, cette fécondité du Père à l'égard du Fils et du Père et du Fils à l'égard de l'Esprit Saint. Alors vous voyez, j'ai simplement remarqué ça, il y a deux petites remarques, et puis après nous continuons. Parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est pour que vous avez tout saisi, tout compris. C'est bien. Alors, je vois que nous disons ad subsistant. Un ad subsistant. Vous comprenez que à l'intérieur de l'âme, du verbe, du pros, on introduit la substance. C'est ce qui permet de comprendre qu'il y a une analogie qui demeure. Puisque, de fait, la personne implique la substance. Il faut bien voir, hein, dans l'analogie, c'est premièrement tout autre avec un petit quelque chose de commun. Le petit koinon, un petit quelque chose de commun. Parce que si c'est purement autre, c'est équivoque. Alors, la grosse question, c'est se poser, mais est-ce que c'est pas complètement équivoque de parler de la personne de Dieu en tant que Dieu est un et de la personne de Dieu en tant qu'il est trois? Est-ce que c'est pas une pure équivocité, donc c'est un jeu de mots? Vous maintenez à tout prix un mot parce que vous voulez le maintenir, mais au fond, c'est un jeu de mots. On a dit non. Il y a quelque chose de commun, et c'est ça qui est important. Il faut d'abord regarder l'altérité, la totale altérité. C'est toujours comme ça qu'il faut faire au point de vue analogie. Vous voyez, et c'est là où on voit que l'analogie n'est pas un procédé d'invention. On n'invente rien avec l'analogie. C'est l'induction qui nous permet d'avancer. Ce n'est pas l'analogie. Les gens qui disent on découvre avec l'analogie, mais pas du tout. L'analogie permet de préciser les niveaux différents d'intelligibilité. C'est énorme au point de vue scientifique. Pour ne pas faire de confusion. Donc au fond, l'analogie évite les confusions. Mais l'analogie ne permet pas de découvrir. Ce n'est pas un procédé de découverte. Ayant découvert, on peut préciser, ah, il y a une analogie. Il y a un lien d'analogie. C'est intéressant à bien préciser ça. Donc, j'ai découvert là, grâce à la révélation, là, c'est la révélation qui me dit qu'il y a une fécondité en Dieu, qu'il y a une distinction des personnes en Dieu. C'est la révélation qui me dit qu'il y a trois personnes. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai reçu par la foi. Ça, c'est très important. Je reçois par la foi, à la fois, l'unité et les trois. Ça, c'est la foi qui me le dit. Donc, l'unité, je peux en avoir une intelligence métaphysique. Pas une évidence, hein, pas d'évidence de l'unité de Dieu. Mais je peux voir que la manière d'exister de Dieu ne peut être que dans la simplicité absolue. Donc, c'est l'unité. Simplicité absolue. Et je peux, étant donné la foi qui me dit qu'il y a trois personnes, essayer de comprendre comment dans cette unité il peut y avoir trois personnes, et que ça ne détruit pas l'unité, et que ça maintient la distinction. C'est la seule chose que j'essaie de comprendre. Et que je comprends que cette distinction est une distinction qui va le plus loin possible dans l'absolu. Parce que c'est une personne. Donc, ce n'est pas. Et c'est ça qui est très important. Donc, c'est une unité absolue et une distinction absolue. C'est la plus grande des distinctions qui existent. D'habitude, dans les distinctions, il y a un genre commun qui est le sujet commun. Et donc la distinction se fait à partir d'un genre, ou à partir de telle ou telle qualité. Donc la distinction ne va pas jusqu'où, elle n'est pas substantielle. Là, elle est substantielle. C'est pour ça que c'est l'âme subsistant. C'est la plus grande distinction qui soit. La personne du Père est un absolu. La personne du Fils est un absolu. Puisqu'autrement, si vous dites que la personne du Père est relative au Fils, vous comprenez bien alors que le Père ne serait pas totalement Dieu. Parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de relatif en Dieu. Et donc, le mystère de la très sainte Trinité diminuerait l'absolu de Dieu. C'est ce que certains disent. En faisant intervenir trois personnes, vous supprimez l'absolu de Dieu. Et chez les musulmans, c'est la tendance. Vous diminuez, vous voulez quelque chose de plus, mais au fond, vous diminuez. Il n'y a qu'une seule chose qui est absolue, c'est là. Très bien, dans une perspective néoplatonicienne, il n'y a qu'une seule chose absolue, c'est là. C'est pour ça que si vous poussez jusqu'au bout la perspective platonicienne, c'est très difficile. Il faut le réalisme de la substance et de l'être pour pouvoir montrer comment dans l'unité, il y a les trois. Ça, ce serait intéressant à regarder. Parce que si on peut arriver à montrer ça, je crois qu'on peut. On montrerait comment le néoplatonisme ne peut pas aller jusqu'au bout dans le mystère de la très sainte Trinité. Parce que c'est la substance, et ce n'est pas l'unité qui définit la personne. C'est l'aspect de la substance. C'est une substance individuelle, mais ce n'est pas l'unité qui fait la personne. Et c'est grâce à la substance, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'ayant réfléchi, je me suis dit, ça c'est important. Autrement, vous auriez toute la tendance, je crois, spontanée, c'est une bonne tendance de le faire, de dire, au fond, c'est très bien ce que vous faites, mais c'est un jeu d'équilibre invraisemblable du point de vue intellectuel. Et donc, c'est la pure équivocité. C'est une dénomination. Parce que l'équivocité, c'est ce qui se fait. Une dénomination, vous dénommez, mais vous n'atteignez rien de réel. Pas du tout. Il y a quelque chose de réel, parce que vous dites un arbre subsistant. Si c'est un arbre subsistant, c'est donc un arbre qui implique de toucher la substance. C'est un arbre absolu, ce qui subsiste. C'est un arbre absolu, dans l'unité absolue de Dieu. Dans l'unité absolue de la simplicité de Dieu. Donc vous avez l'unité, la personne divine. Caractère de personne divine. Je reviendrai dans un instant pour vous citer quelques textes de saint Thomas, bon, qui fait le mystère de la simplicité absolue de Dieu. Mais c'est la substance. Substance qui n'acte plus, c'est sûr. Cette substance qui est acte pur, qui est l'unité de Dieu. Et bien, à l'intérieur même de cette substance qui est acte pur, nous introduisons le caractère relatif de là, en disant tout de suite que cet âme, s'il est introduit dans l'unité absolue de Dieu, implique le point de vue de la subsistance. Je ne peux pas dire plus. Mais je montre au moins que par le point de vue de la substance, il y a quelque chose de commun. Et que ce n'est pas totalement autre. C'est autre, mais que ce n'est pas équivoque. Il y a quelque chose qui demeure, le point de vue de la substance. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est celle-ci. Alors, réfléchissez, et si dans votre contemplation, vous avez des questions, posez-les, n'est-ce pas ? Alors, saint Thomas nous dit ceci. C'est dans la Tertia Pars. Tertia Pars, question 3, article 1, ad primum, ad secundum, ad tertium. Je vous relis simplement, parce que c'est assez beau. La personne divine étant infinie, on ne peut rien lui ajouter. La personne divine étant infinie, il prend la personne divine en soi, hein, Dieu, dans son unité. La simplicité de Dieu, vous savez bien, dans les manières d'exister de Dieu, la simplicité de Dieu implique immédiatement l'infini. Parce que Dieu est absolument saint, il est infini. Parce que la personne divine est absolument saint, en étant substance et acte pur, elle est infinie. Si elle est infinie, on ne peut rien lui ajouter. Donc, avec l'âme, vous ne lui ajoutez rien. Donc, vous ne divisez pas la simplicité. C'est pour ça que c'est important de bien noter ça. La personne divine étant infinie, on ne peut rien lui ajouter. Alors, à la secundum, c'est le propre de la personne divine, à cause de son infinité, qu'il se fasse en elle un concours de nature, non accidentel, mais selon la substance. C'est aussi très curieux, mais c'est intéressant. C'est une affirmation qui est peut-être plus nette encore que ce qu'il dit dans le traité de la très sainte Trinité. Il y a la tertium, dans le Christ, la nature divine constitue la personne divine de façon absolue, simplicitaire. Ce que ne fait pas la nature humaine. Puisque la nature divine, c'est sa personne. Pas de distinction entre nature et suppos en Dieu, étant donné la simplicité absolue de Dieu. Donc, sa nature divine, c'est sa personne. En Dieu seul, il n'y a pas d'essai de la personne qui soit autre que l'essai de la nature. C'est Tertia Pars, question 17, article 2, ad tertium. Je comprends très bien que c'est dans les arbres, vous voyez, parce que ce n'est pas directement le sujet du mystère de l'incarnation, c'est un rappel par rapport à la personne divine. Mais je crois que ce sont des lieux, il y en aurait d'autres, hein, mais quelques lieux intéressants où saint Thomas parle de la personne divine en elle-même. Il n'en parle pas beaucoup dans le traité des manières d'exister de Dieu. Il en parle beaucoup dans la Tertia Pars. Et à propos de la très sainte Trinité, il est tellement occupé des trois qui ne regarde pas beaucoup l'unité, vous voyez, c'est présupposé dans tout ce qui a été dit avant. Alors c'est intéressant, comme toujours, parce que, au fond, le traité du Christ représente quelque chose d'ultime et dernier. Et donc c'est là où on revient sur le mystère de la personne divine. Je crois que c'est les deux choses que je voulais vous rappeler, parce que c'est important à voir. Alors évidemment, hein, comprenez bien, et je le redis parce que c'est très important, ne croyez pas qu'à partir du mystère de la très sainte Trinité, vous avez une nouvelle notion de la personne. Au point de vue strictement métaphysique, la très sainte Trinité n'ajoute rien à votre notion de la personne. Hein, c'est très important. Il ne faut pas dire, hein, comme certains, qu'à partir du mystère de la très sainte Trinité, je vois que la relation est substantielle. Et donc j'ai quelque chose de tout à fait nouveau, j'ai une nouvelle métaphysique, j'ai une métaphysique de la relation. Alors je peux dire à partir de là, il y a deux absolus dans l'être, la relation et la substance. Vous faites là une confusion complète de l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. L'ordre surnaturel, la révélation du mystère de la très sainte Trinité, n'ajoute rien au point de vue de votre concept de la personne. Vous pouvez dire aussi que la découverte de l'être premier n'ajoute rien à votre concept de personne. Puisque vous l'appliquez à Dieu, vous voyez que cette personne, c'est la personne parfaite. Mais vous ne la saisissez pas, vous ne saisissez pas le cuit de la personne de Dieu. Dans sa simplicité. Vous saisissez négativement que la personne de Dieu n'a aucune complexité, aucune composition. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça fait toujours comprendre la pauvreté de la théologie. Ça. Pauvreté de la théologie, ça demande d'être très pauvre pour faire de la théologie. Si vous faites de la théologie en riche, vous serez déçu. Si vous faites de la théologie pour purifier votre intelligence et permettre la contemplation, et de permettre que c'est l'amour qui nous permet d'aller plus loin, alors c'est magnifique. C'est une purification extraordinaire. Mais la théologie purifie. La métaphysique enrichit. D'une certaine manière, vous comprenez. D'une certaine manière, elle vous apporte une possibilité d'être plus loin, comme toujours la philosophie apporte quelque chose de positif. Tandis que la théologie, c'est pour ça que certains diront que c'est purement négatif. C'est pas purement négatif, puisque ça demande d'être complété par la contemplation. C'est ce qui ouvre à la contemplation. La négation est là pour ouvrir à la contemplation, et pour entrer dans ce mystère de la contemplation. Vous voyez ? Autre chose est de dire... La spéculation théologique sur les trois personnes divines et la spéculation sur la personne de Dieu n'ajoute rien à la métaphysique. Autre chose est de dire, c'est tout à fait inutile la révélation de la très sainte Trinité. Bien la distinction entre les deux. Et ce que saint Augustin nous dit reste parfaitement vrai. La moindre petite lumière que j'ai sur le mystère de la très sainte Trinité va immédiatement éclairer tout le reste. La moindre purification que vous avez sur le mystère de la très sainte Trinité nous aide à avoir toute une lumière sur le reste. Donc c'est pour laisser le primat de l'amour pour pénétrer dans le mystère de la très sainte Trinité. Donc, dernière réflexion, toujours dans saint Thomas, sur la personne. Alors vous allez dire, pourquoi faites-vous ça? Alors, ça n'a rien à voir au point de vue métaphysique. Hein, et c'est très intéressant de voir comment le théologien se sert de la personne et de voir comment le théologien s'en sert avec beaucoup, beaucoup de respect et quand même comment cette notion de personne, cette ratio de personne, cette notion de personne ou ce comment de la personne au point de vue métaphysique me permet de préciser tout un traité sur la très sainte Trinité et sur le mystère du Christ. Dans le traité de l'incarnation, saint Thomas poursuit son analyse de la personne. Il commence par rappeler qu'elle signifie autre chose que la nature. Et pour le montrer, il rappelle la distinction entre nature et suppos. Donc là, c'est le point de vue de la nature et des suppos. Donc nous retenons à la question, dans la somme, vous voyez, quand saint Thomas parle de la nature et du suppos à propos de la simplicité de Dieu. Le suppos est pris comme un tout. Ça, c'est très intéressant. Et c'est nouveau, c'est pas du tout la même chose que dans la très sainte Trinité. C'est la notion du tout qui impressionne saint Thomas. La personne, c'est un tout. Vous voyez que c'est un pose. Saint Thomas ne le dit pas, mais ce n'est pas un principe. Et c'est très très intéressant, parce que vous voyez là comment pour Hegel, la philosophie regarde le tout. Et comment pour des post-hegéliens, la métaphysique regarde un tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au point de vue proprement philosophie réaliste? Qu'est-ce que c'est que le tout? À la différence d'un principe. Un principe, ce n'est pas un tout. Ce n'est pas un tas de briques, en principe. Ce n'est pas un tout. Un tout, c'est une manière d'exister distincte de la partie. Hein. Normalement, si on a un esprit bien fait, le tout se distingue de la partie, ou la partie se distingue du tout. C'est intéressant, tout est parti, hein, parce que c'est des choses tout à fait spéciales, tout est parti. Le tout, alors le tout dans toute sa force, hein, c'est la sphère, un tout. Et la partie, on montre tout de suite, hein, pas la peine de voir. On connaît la partie. Alors, est-ce qu'on connaît la partie avant le tout? Est-ce qu'on connaît le tout avant la partie? Posez-vous la question. Ça dépend des esprits. Ça. Il y a des gens qui comprennent tout de suite l'ensemble. Puis, c'est à partir de l'ensemble qu'on voit le tout. Il y a des gens qui connaissent la partie. Puis, à partir de la partie, connaissent le tout. Ça, c'est intéressant comme problème. Hein, se poser la question. Alors n'oubliez toujours, il faut toujours regarder les deux aspects, hein, l'aspect génétique et l'aspect d'ordre parfait. Mais c'est évident que c'est relatif de l'un à l'autre. Hein. Je vais du tout vers la partie, je vais de la partie vers le tout. Alors, cette considération est assez nouvelle. Hein. Il rappelle la distinction entre nature et le suppôt. Le suppôt est pris comme un tout, ayant une nature comme partie formelle et capable de le perfectionner. Ut totum, voilà le suppôt, c'est ut totum, abens naturam, sicut partem formalem, et perfectivam sui. Une partie perfective. C'est curieux. Ceci, regardez, tertia pars, question 2, article 2. Je vous lis ce que nous dit saint Thomas, là encore, le suppôt. Et l'individu subsistant dans telle nature, c'est une bonne définition du suppôt, c'est l'individu subsistant dans telle nature, voilà le suppôt, vous êtes des suppôts, au plan métaphysique, des petits suppôts particuliers, des petites monades. Donc le suppôt, et l'individu subsistant dans telle nature, l'essai appartient à la personne, comme ce qui a l'essai. Ça, c'est aussi une des choses que saint Thomas dit tout le temps, qui est intéressante à voir ici. Alors, vous voyez donc, le tout, c'est le suppôt, et saint Thomas montrera que la personne, c'est le suppôt. Qu'est-ce que c'est que la personne? C'est le suppôt dans telle nature. Donc, c'est le suppôt dans une nature rationnelle. Donc, c'est l'esprit qui vient s'ajouter dans suppôt. Suppôt plus esprit égale personne, hein, pour ceux qui aiment les petites additions comme ça. Mais c'est très mauvais, c'est très mauvais. Mais c'est de voir que le suppôt, c'est le suppôt dans une nature rationnelle. Donc c'est le suppôt dans l'esprit. Alors c'est la personne. Oui, je prends ça comme ça, on secoue les problèmes de diverses manières, et au bout d'un certain temps, ça rentre dedans. On rentre dedans. C'est, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, ça. On n'a pas vu jusque maintenant ce point de vue-là. On avait vu personne et suppôt, on avait vu personne hypostasis. Retrouvez ici le point de vue du suppôt. Alors, le tout, le suppôt. Alors, saint Thomas montre que la personne a l'essai. C'est ce qui a l'essai. Autrement dit, la personne est le quod qui a l'essai. Je ne peux pas faire abstraction de l'essai de la personne. Intéressant. Je ne peux pas. La personne a l'essai. Donc, elle est concrète, la personne. Tout le temps. C'est pour ça qu'on parler de la personnalité, attention, hein, attention, parce que c'est abstrait. La Personne ne sait le progrès, c'est ce qui a l'essai, c'est ce qui a l'acte d'être. Donc, la personne est toujours implique toujours l'essai. Vous voyez, là encore, hein, ça me fait comprendre qu'au point de vue proprement métaphysique, la personne est un pose, c'est une manière d'exister. La personne, c'est la manière d'exister de l'esprit. L'esprit, il existe comme une personne. Si vous êtes un esprit, vous pouvez exister comme une personne. Tandis que si vous êtes un tas de cailloux, vous existez d'une autre manière qu'un esprit. Un esprit ne peut exister qu'avec l'autonomie. C'est bien, vous voyez, ça montre bien ceci. C'est intéressant à bien préciser. Ce n'est pas un principe. Un principe, il n'a pas l'essai. C'est impossible qu'un principe a l'essai. Que l'essai soit impliqué dedans. Oui, mais le principe, ce n'est pas l'essai, parce que c'est l'intelligence qui, par l'analyse, saisit le principe. Tandis qu'au contraire, la personne, elle a l'essai. Alors, je continue ce que saint Thomas dit ici. L'essai appartient à la personne comme ce qui a l'essai. Et à la nature comme ce par quoi quelque chose a l'essai. Car la nature est signifiée par mode de forme. Donc, la personne est un quod, quod habens esse. C'est ce qui a l'essai, la personne. C'est ce qui a. Ce qui a l'essai. Tandis qu'au contraire, la nature, c'est toujours un pot. C'est ce par quoi. La formule d'Aristote, hein. To einai anthropo. To einai, l'être à l'homme. C'est la nature humaine. C'est l'essai qui est modifié par la personne, qui est modifié par la nature. Donc la nature, c'est le quoi, ce par quoi. Tandis que la personne, c'est ce qui a. Donc je vois bien que la nature est prise d'une manière abstraite, du moins, elle est prise comme un quoi, c'est-à-dire comme un principe, disons plus exactement. C'est mieux que de dire de manière abstraite. Elle est prise comme un principe, tandis que la personne n'est pas prise comme un principe. Donc ce petit texte est intéressant, il y en a beaucoup d'autres, hein. Qui dit ça, saint Thomas revient toujours là-dessus, c'est toujours intéressant à voir ça. De même dans les sentences, hein, saint Thomas dit encore, troisième livre des sentences, distinction 5, question 1, article 3, il nous dit ceci, la nature est la quiddité de la réalité que signifie sa définition, tandis que la personne est ce quelque chose, un ocaliquid, cet ocaliquid, qui subsiste dans cette nature. Et dans le commentaire du Périherménéas, donc premier livre, leçon première, numéro 6, saint Thomas, parlant des pronoms, note que bien qu'il ne nomme pas la nature, il détermine cependant la personne. C'est pourquoi ils sont mis à la place des noms. Ça, c'est toujours la question du nom qui exprime quelque chose de substantiel. Alors je continue pour essayer de bien entrer dans cette vision particulière de la personne telle qu'il la regarde dans son traité de l'incarnation. Donc saint Thomas nous dit, le suppôt est pris comme un tout, ayant une nature comme partie formelle et capable de le perfectionner, perfectivam sui. Or, ce qui est dit du suppôt doit s'entendre de la personne dans les créatures rationnelles ou intellectuelles, puisque la personne n'est autre, selon Boès, qu'une substance individuelle d'une nature rationnelle. Donc, toujours la même idée, hein, depuis le début. Saint Thomas a toujours pris cette définition de Boès. Il l'a prise d'abord d'une façon plus logique, puis d'une façon plus métaphysique. Hein. Le passage de la logique à la métaphysique. Et saint Thomas précise, en réponse à une objection concernant la personne du Christ, que la personnalité nécessairement fait appel à la dignité d'une réalité et à sa perfection dans la mesure même où il appartient à la dignité et à la perfection de cette réalité que celle-ci existe par soi. Exister par soi, c'est exister comme un tout. Exister par un autre, c'est exister comme une partie. Quand vous faites partie d'une communauté, vous existez en fonction de la communauté qui est un tout. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que la dignité de la personne se rebelle. C'est évident. Hein. Moi, je suis un tout. Vous me relativisez la communauté. Alors, ça n'est pas possible, ce truc-là. C'est vrai, il y a certaines communautés qui peuvent justement faire qu'on relativise la personne tout d'une manière telle que la personne est abîmée dans sa dignité. La personne implique la dignité. C'est très important de comprendre ça. Donc elle existe par soi. Elle a son autonomie, autrement dit. C'est l'autonomie radicale de la personne. Elle existe par soi. C'est l'autonomie radicale du suppôt. Il existe par soi. C'est un tout. Vous avez donc là le point de vue de la subsistance. C'est intéressant parce que ça montre bien la relation entre le tout et ce point d'exister par soi. Je reprends cette phrase. Saint Thomas précise, en répondant à une objection concernant la personne du Christ, que la personnalité nécessairement fait appel à la dignité d'une réalité et à sa perfection, donc dignité et perfection, dans la mesure même où il appartient à la dignité et à la perfection de cette réalité, que celle-ci existe par soi. Ça, saint Thomas est très sensible à cela. La personne fait appel à la dignité et la perfection. La personne implique cela. Ce n'est pas n'importe quel individu dans le genre substance, même dans la nature rationnelle, qui a la raison de personne, mais seulement ce qui existe par soi. Et non ce qui existe dans un autre plus parfait. Non, ce qui existe dans un autre plus parfait n'est pas une personne, puisqu'il existe relativement à un autre. Ce qui répugne à la personne comme telle est premièrement dans sa dignité, dans sa perfection, et une perfection qui touche le point de vue ontologique, exister en soi. C'est dit avec... C'est toute la substance, c'est pas autre chose que ça, mais c'est dit selon une autre modalité, vous voyez, un peu plus proche peut-être de nous. Parce que c'est montrer la dignité de la personne, c'est montrer la perfection de la personne qui implique cette autonomie. Ainsi, la main de Socrate, c'est intéressant parce que c'est ça, on prend cette petite analogie, la main de Socrate est quelque chose d'individuel. Condam individuum, quelque chose d'individuel, la main de Socrate, comme la vôtre. Hein. Il n'y a rien de particulier à celle de Socrate. Mais la main de Socrate, c'est l'exemple de Socrate comme individu. Tu vois. Donc, la main de Socrate est quelque chose d'individuel, mais n'est pas une personne, parce qu'elle n'existe pas par elle-même. Si elle commençait à exister par elle-même, ça vous ferait peur. La main de Socrate n'existe pas par elle-même. Elle existe relativement à un tout, à un individu subsistant qui est Socrate. Mais elle existe dans le tout. Ainsi dit-on que la personne est une substance individuelle, la main n'est pas une substance complète, mais une partie de la substance. Et c'est en ce sens-là que saint Thomas montrera que la nature humaine dans le Christ n'est qu'une partie. Et donc la nature humaine n'est pas personne. L'analogie avec la main de Socrate. La main de Socrate organon, vous voyez, et la nature humaine sera dans le Christ organon de la divinité. Elle ne sera pas personne. Ça, c'est l'analogie qu'il prend, qui est très belle, qui est très très jolie. Évidemment qu'il peut se dire, encore une fois, que dans la nature humaine, alors vous allez dire, c'est terrible, la nature humaine perd toute sa dignité, elle devient un organon. Ah oui, oui. Alors, où est la dignité? Si de fait, et c'est ça la réaction d'aujourd'hui pour dire qu'il y a dans le Christ un second essai, pour montrer quelle autonomie. Alors, vous voyez, c'est faux. Parce que c'est une analogie. Alors une analogie ne porte que sur un point, et pas sur le tout. Parce que c'est vrai, si vous le faites porter sur autre chose, alors c'est effrayant. la nature humaine porte toute sa dignité en Christ. Non. La nature humaine dans le Christ est la plus digne de toutes les natures humaines. Bien qu'elle soit, non pas une personne par elle-même, mais qu'elle soit assumée par une personne divine. La personne humaine est constituée. On entre toujours plus avant, vous voyez, mais c'est cette idée-là, et c'est cette idée qui est très importante, qui est nouvelle, que saint Thomas n'avait pas développée avant, cette idée du tout, du suppôt, du quod qui a laissé, seule la personne a laissé. Tandis que la nature humaine, c'est par lequel, c'est pour les deux essais du Christ, pour ceux qui s'intéressent à cette question au point de vue théologique, c'est très très important ça. S'il n'y a qu'un, qu'il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, il ne peut y avoir qu'un essai. Ça ne peut pas être autrement. Puisque seule la personne a l'essai, au sens fort. Alors, continuons. La personne humaine est constituée de l'union de l'âme et du corps. Car dans l'homme, l'âme et le corps sont unis de manière telle qu'ils existent par soi. Ce n'est pas le cas de la personne du Christ. Oui. Alors c'est là, on touche le mystère. La personne humaine, nous. Alors vous voyez comment, à première vue, on va dire, mais alors, là encore, c'est purement équivoque. Quand vous parlez de nature humaine dans le Christ, c'est plus du tout la même. Puisque vous dites, vous, nature humaine, la personne humaine applique l'âme et le corps. L'âme spirituelle et le corps. Il y a une unité. Il y a un tout. Puisque ça subsiste. L'âme spirituelle subsiste dans le corps. Et l'âme spirituelle fait subsister le corps. L'âme spirituelle n'existe pas avant le corps, elle fait subsister le corps. Parce qu'elle est substance. Et le corps est une partie substantielle, une partie, attention, puisque c'est un élément substantiel. Alors, c'est plus qu'une partie, c'est un aspect substantiel, le corps est substantiel par rapport à cette unité. Le corps n'est pas accidentel à l'âme. Donc entre le corps et entre l'âme spirituelle et le corps, il y a une unité substantielle, c'est un tout substantiel qui subsiste en soi. Tandis que quand il s'agit du Christ, cette âme substantielle, ce corps, va de fait subsister dans quelque chose de plus noble et de plus grand. Or, si on subsiste dans quelque chose de substantiel et de plus grand, on n'est pas une personne. Puisque le propre de la personne, c'est d'avoir son autonomie dans l'ordre de l'existence. Ça a été dit plus précédemment. Je vous ai lu ce passage de saint Thomas qui est intéressant, du reste. Hein. Ce n'est pas n'importe quel individu dans le genre substance, même dans la nature rationnelle, qui a la raison de personne, mais seulement ce qui existe par soi. Et non ce qui existe dans un autre plus parfait. Saint Thomas, en disant ça, pense bien au mystère du Christ, hein, ça c'est sûr. C'est à la personne qu'il convient en propre d'agir. Alors, là, nous passons dans une autre considération que nous allons voir ensuite. Je reviens ici simplement pour montrer que lorsqu'il s'agit du mystère de l'incarnation, saint Thomas fait appel à cette notion de personne, suppôt et tout, suppôt et le tout qui existe en soi, qui subsiste en soi. Et donc, une partie, ce suppôt assume une nature humaine dans sa dignité de personne divine, cette nature humaine ne peut plus être au sens rigoureux et métaphysique une personne. Ça reste une nature, mais c'est plus une personne. Une personne dans le Christ est de nature. Voilà ce que nous dit la foi. Et nous comprenons ça au point de vue proprement théologique, du fait même que le point de vue de la personne, c'est le point de vue du tout. Alors, voyez l'analogie. Hein. Alors, je reviens sur cette analogie parce que cette dame à la date, elle est amusante. Hein. Elle est amusante et en même temps, elle est très trompeuse, comme toutes les bonnes analogies. Hein. C'est très trompeur, il faut bien le comprendre. La nature humaine est au gris comme la main de Socrate est à Socrate. Hein. Oui. Hein. Et vous voyez ce que vous pouvez en faire hein, de ce point de vue-là. La nature humaine dans le Christ est comme la main de Socrate, attention, oui, au point de vue de la subsistance en soi, mais pas au point de vue de ce que représente la quiddité, c'est-à-dire au point de vue de la nature propre du Christ, de la nature humaine du Christ. Ce qu'est la nature humaine du Christ ? La nature humaine du Christ n'est pas quelque chose d'accidentel, pas quelque chose d'accidentel, tandis que la main de Socrate est quelque chose d'accidentel. Vous coupez la main à Socrate, Socrate reste Socrate. Vous enlevez la nature humaine du Christ, le Christ n'est plus le Christ. Donc ce n'est pas accidentel. C'est pour ça que cette analogie est très dangereuse, vous voyez. Parce qu'alors vous diriez ça. Alors vous demandez le Christ. Bon, alors le Christ est uniquement Dieu. C'est vrai qu'il y a eu toute une théologie qui s'est développée comme ça. Alors il y a eu l'autre théologie, vous savez bien, l'opposition entre la théologie d'Alexandrie et la théologie proprement d'Antioche. Il y a eu les deux. Et il y a tout le temps les deux courants. Alors de maintenant, il n'y a pas de danger de tomber du côté d'Alexandrie. Hein. Il y a plutôt d'Antioche. C'est d'exalter la nature humaine du Christ de telle manière qu'on ne voit plus que la nature humaine du Christ. On ne voit plus que l'homme dans le Christ. On ne voit plus Dieu. Alors, ne voyant plus Dieu, évidemment, on ne voit plus comment la nature humaine, on ne voit plus comment dans le Christ, il n'y a qu'une personne. Et on a tendance, c'est la tendance de certains, de dire, regardons, laissez dans le Christ, laisser propre la nature humaine. Oui. Parce qu'on a séparé tellement la nature humaine de sa personne qu'on veut voir laisser propre du Christ. Alors on dit, dans le Christ, il y a deux exister, deux actes d'exister. Alors on ne comprend plus comment seule la personne a laissé. Donc, retenez au moins cette spéculation particulière que nous fait saint Thomas dans le point de vue proprement du mystère de l'incarnation, c'est de regarder la personne comme un tout. C'est ça qui nous intéresse, c'est de voir qu'il a regardé la personne humaine selon des perspectives différentes. Et c'est toujours le point de vue de Boèce qui revient tout le temps. Je vous salue, Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.